Nous lisons dans 1 Pierre chapitre 2 et le verset 9 et 10. Vous par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Ce texte d'introduction pour notre message que je voudrais inscrire dans la ligne de ce que Dieu est en train de faire et de construire au milieu de nous depuis un certain nombre de semaines déjà. Souvenez-vous que Pierre, qui s'adresse aux gens dispersés dans tout l'Empire romain, Pierre parle à des gens qui sont éparpillés, qui sont parfois seuls, isolés quelque part, parfois découragés, tristes, sous pression également à cause de l'Empire romain ou de certains empereurs qui sont extrêmement mal disposés face à la foi chrétienne et qui les persécutent. Ils subissent le poids de ce royaume qui n'est pas le leur. Tout comme le chrétien d'aujourd'hui parfois subit le poids et les règles, la pression parfois inexplicable de ce monde alors que nous ne sommes pas de ce monde. Les chrétiens dispersés dans tout l'Empire romain n'étaient pas dans ce royaume, mais ils subissaient un certain nombre de problèmes liés à leur contexte social de l'époque. Et l'apôtre Pierre veut leur dire, vous n'êtes pas seuls. Vous êtes même une race élue. Vous êtes un peuple à part, vous êtes un peuple saint. Un peuple acquis, une nation sainte. Vous êtes ensemble dans les générations jeunes et moins jeunes et vous êtes environnés d'une si grande nuée de témoins. Vous n'êtes pas seul. Le Seigneur aimerait nous dire ce matin aussi, tu n'es pas seul, tu es environné d'une si grande nuée de témoins vivants et de ceux qui nous ont déjà précédés et qui sont dans la gloire. Il y a une si grande nuée de témoins aujourd'hui qui essayent et qui cherchent à nous encourager pour te dire, tu n'es pas seul, tu es connecté quelque part à d'autres générations. Vous êtes au bénéfice de la grâce, vous êtes une race, une nation, un peuple. Et votre travail, ce n'est pas de vous replier sur vous-même, car l'individualisme n'est jamais le bon chemin. Je voudrais vous parler ce matin, justement, de cette connexion dans les générations. Cette connexion. Et si les chrétiens du temps de Pierre, dispersés dans le royaume, avaient besoin de savoir qu'ils n'étaient pas seuls, mais qu'ils étaient une race élue, car le mot « race » veut dire « génos », qui veut dire « génération » aussi. C'est de là que vient le mot « génération ». Une race, une nation, un peuple, c'est-à-dire vous êtes une famille, une famille. La notion de la famille spirituelle, la famille de Dieu, est quelque chose que Dieu est en train de souligner vraiment dans notre Église tout ce dernier temps. N'est-ce pas vrai? Depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, nous sommes dans cette même thématique qui est abordée tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous avons vu en particulier avec nos jeunes combien c'était bienfaisant de voir et de sentir, sentir cette interdépendance, cette bénédiction mutuelle, d'être bénis par les jeunes. Et nous bénissons les jeunes dans nos propres familles, mais aussi dans l'Église. C'est une grande richesse. C'est une grande richesse. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? C'est quelque chose de précieux que nous voulons chérir et surtout pas perdre, mais au contraire, encourager. Mais nous devons savoir tout ce que Dieu prévoit, tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu veut construire est contesté par l'adversaire. Nous ne devons pas nous étonner que ces choses doivent être gagnées, doivent être gardées, protégées, car l'ennemi cherche à casser, briser, désunir ce que Dieu cherche à unir et bâtir. Les intentions de l'adversaire doivent être claires pour chacun de nous. Nous n'ignorons pas ses manœuvres, dira l'apôtre Paul. Nous n'ignorons pas ses desseins et ses stratagèmes. L'adversaire veut contrecarrer ce que Dieu est en train de faire et de construire. Tout comme nous avons parlé de la koinonia, de cette communion de ce qui nous unit dans la foi, nous avons vu que ce sont des choses qui sont basé pour le chrétien sur le même fondement qui est Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, qui est le salut en Jésus seul, par la croix et par son sang qui purifie. Mais nous devons également, comme dit la parole, protéger cette koinonia. Elle n'est pas juste un cadeau qu'il faut juste prendre comme ça, mais il faut aussi la protéger. Parce que, comme je l'ai dit, l'ennemi cherche à désunir et à casser, briser ce que Dieu fait. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire dans Éphésiens, « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Vous avez déjà reçu l'unité, la koinonia est là, la connexion existe, mais il faut la protéger. Car l'adversaire sait d'où le peuple de Dieu tire sa force. Il sait d'où est notre force. C'est pourquoi il veut nous affaiblir en brisant et en cherchant à casser ce que Dieu construit. Soyons donc sur nos gardes. Oui, il nous faut vraiment penser en termes de génération, car nous avons aujourd'hui à servir Dieu dans notre temps, dans notre génération. Chacun de nous, nous avons notre temps. Ceux qui ont été avant nous ont eu leur temps. Leur temps est terminé. Nous avons tous un temps limité, un nombre de jours limité, et il nous faut faire le meilleur à partir de ce temps que Dieu nous donne. Il est dit au sujet de David qu'il a servi Dieu dans sa génération. Et j'aimerais vous dire comme un mot d'ordre, nous devons servir Dieu dans notre génération aujourd'hui. Car notre Dieu est un Dieu qui parle en termes de génération. Par exemple, dans le psaume 33 et dans bien d'autres textes, il est dit que les projets de Dieu durent de génération en génération. Les pensées de l'Éternel durent de génération en génération. Son projet s'inscrit dans les générations. Dieu ne travaille pas seulement avec moi comme individu, mais il travaille avec les générations. C'est ça qui est important. C'est que le Seigneur est un Dieu qui construit et qui veut que nous transmettions d'une génération vers une autre. Lisons encore dans le psaume 71, le verset 17. Psaume 71, verset 17. Nous lisons, « Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent j'annonce tes merveilles. Aussi jusque dans la vieillesse, aux cheveux blancs, ô Dieu, tu ne m'abandonnes pas, afin que j'annonce ta force à cette génération, ta puissance à tous ceux qui viendront, alléluia, à la génération future. Même jusque dans ma blanche vieillesse, je n'ai pas besoin de démissionner. Je n'ai pas besoin de dire maintenant c'est le temps de la retraite, j'ai terminé mon travail, non. Même dans la blanche vieillesse, le Seigneur savait que ceux qui sont à la retraite ou proches de la retraite pensent un petit peu à ces choses-là aussi. Mon travail est terminé, non, ton travail n'est pas terminé. Lorsque tu as les cheveux blancs dans ta vieillesse, tu as encore quelque chose à annoncer à la génération à venir. Parce que ton message parle et surtout quand tu as des cheveux blancs, ta vie a parlé. Ta vie est un témoignage. Tu es une Bible ambulante. Tu es une Bible que les gens voient, regardent. Tu es un message prophétique sur deux pattes. Ta vie parle. C'est sûr que la vie d'un enfant qui a de la vie devant lui, qui a l'existence devant lui, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui a la vie derrière lui. Parce que la vie derrière moi laisse une trace qui a parlé. Ça parle, une vie. Et la jeune génération observe les traces de ceux qui nous précèdent et observe quelle a été notre vie. Mon frère, ma sœur, ta parole est importante, mais ta vie et ta parole ensemble sera le message qui sera entendu. Si ta vie et ta parole vont de pair, si ta parole est la même chose que ta vie, alors ton message sera multiplié par la force qu'il aura et tu auras un impact pour la génération suivante. Je sens ce matin que certains se disent et peuvent très facilement être culpabilisés en disant « Mais de toute façon, il n'y a aucune vie qui est parfaite. Moi, j'ai louvoyé dans ma vie, j'ai pas tout fait juste. » Alors premièrement, nous le savons déjà, le pardon de Dieu est pour tous. Le pardon de Dieu est important. Ensuite, il faut entrer dans la démarche importante et ça, j'aimerais le dire spécialement aussi, et pas seulement à ceux qui sont tout jeunes, mais aussi aux autres. Il faut savoir se pardonner à soi-même, n'est-ce pas? Il y a des personnes qui sont tellement justes et qui sont tellement, quelque part, aussi fières, qui ne s'autorisent aucune erreur et qui portent l'erreur de leur vie toujours avec eux et ils s'en veulent toujours et ça revient manger leur énergie et leur joie surtout. Mes amis, si Dieu nous a pardonnés, qui sommes-nous pour ne pas libérer le fardeau sur le Seigneur? Mais parfois, nous déposons nos fardeaux, mais nous le ramassons et Nous continuons à nous juger nous-mêmes et nous continuons à porter la charge qui doit rester aux pieds du Seigneur. Soyons libérés de ce qui n'a pas fonctionné dans notre vie. De toute façon, on ne peut rien changer, n'est-ce pas? On ne peut pas réécrire l'histoire en arrière, ce qui est derrière, ce qui est passé. L'apôtre Paul va dire « Je laisse les choses anciennes en arrière et je me porte sur ce qui est en avant. » L'apôtre Paul aurait pu se culpabiliser toute sa vie, tout au long de son ministère. Et à la veille de sa mort dans 2 Timothée, il le rappellera qu'il était vraiment le pire des pécheurs. Mais il avait aussi tout de suite ajouté que Dieu lui a pardonné, Dieu l'a libéré. Mes amis, nous avons besoin de vivre dans cette libération du passé qui nous afflige, qui nous a alourdi la marche et qui a été, peut-être, dont certains pas ont été des pas qui ont été contraires à la volonté de Dieu. Le Seigneur pardonne et il libère. Est-ce que je peux entendre un amen? Le Seigneur pardonne et il libère. Ne portez pas ce que Jésus a déjà porté. Il y a une démarche à faire. Ce n'est pas toujours facile, mais il faut le choisir. Il faut le désirer. Car dans ces moments de transmission entre les générations et dans cette thématique, on peut voir dans l'Écriture qu'il y a Abraham, Isaac, Jacob, une transmission. On a vu Élisée, Élie, on a vu Paul, Timothée, on a vu Moïse et Josué. Est-ce que vous pensez que leurs vies ont été nettes, limpides et droites tout le temps? Bien sûr que non, puisque nous avons dans l'Écriture suffisamment de textes qui nous montrent qu'eux aussi avaient besoin de la grâce de Dieu tout comme nous. Eux aussi avaient besoin de cette transformation par le Saint-Esprit. Mais ils se sont accrochés et par la foi, ils ont passé le relais à la génération suivante. Par la foi, ils ont transmis le bâton à ceux qui démarraient dans la course. Et je prie vraiment ce matin que certains qui vivent dans cette culpabilité et qui disent « Mais qu'est-ce que tu veux que ma vie parle encore avec tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai fait ?» Je n'ai pas de témoignage, je n'ai plus de témoignage. Mais j'aimerais que vous puissiez avoir le témoignage du pardon de Dieu. Puissiez au moins avoir le témoignage de la grâce de Dieu, le témoignage de la délivrance du Seigneur. Même si vous ne pouvez pas réécrire votre passé, redémarrer votre histoire à partir de maintenant. Faites confiance que le Seigneur, il a porté tout cela. Il a libéré, pardonné. Sa mort à la croix est suffisante pour tout cela. Elle est pleinement suffisante. Elle est nécessaire, mais aussi suffisante pour tout cela. Alors, réécrivons à partir de maintenant avec le stylo de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, de la liberté. Quel que soit votre temps, dans la ligne du temps, quel que soit votre moment de vie maintenant, réécrivez l'histoire avec le Seigneur dans la liberté et la joie afin de transmettre quelque chose à la génération qui suit. Beaucoup de familles où ces choses sont, nous dit la parole de Dieu, doivent être transmises. Beaucoup de familles ont vu leurs rêves brisés par les disputes, les mésententes, le conjoint qui ne suit pas, ou encore le conjoint qui a démissionné, qui est parti ou qui n'a pas du tout pris sa responsabilité spirituelle. Parce que la transmission, nous dit la parole de Dieu, doit se faire prioritairement dans le cercle d'influence numéro un, qui est la famille. C'est là que nous avons notre vie et notre influence, et c'est là que Dieu nous dit, c'est ici que je te pose parce que tu as une responsabilité. Mais c'est aussi là qu'il y a les grands combats, n'est-ce pas? C'est aussi là qu'il y a les grands enjeux se trouvent dans nos familles, justement. Même si les médias nous montrent que les grands enjeux se trouvent aux quatre coins du monde, dans tous les conflits et les guerres, etc., ils se trouvent d'abord dans nos propres maisons, où nous pouvons vivre déception, fatigue, culpabilité, sentiment d'échec, etc. C'est là que le Seigneur veut que nous prenions des victoires aujourd'hui. Je pense également à ceux qui aimeraient tellement transmettre et qui entendent ce matin ce message en disant « Seigneur, tu veux que je transmette aussi moi qui suis, fais partie de la génération élue de la nation sainte afin que j'annonce aux autres tes vertus. Mais Seigneur, ma famille, elle est éparpillée aux quatre coins du monde. Beaucoup d'entre vous, vous venez d'autres pays et vous vous demandez « Mais quel est mon cercle d'influence ? Je n'ai plus de cercle d'influence. » Il y a des choses à apporter au Seigneur. Il y a des choses à parler au Seigneur. Il y a ensuite des démarches à faire. Si vous avez encore une influence à avoir, si vous avez encore une pierre à mettre dans l'édifice, si vous avez encore un pas d'obéissance à faire, il faut le faire. Et à la fin de ce message, Je vais vous montrer un pas que tous on peut faire, tous. Paul va dire à Timothée, son enfant spirituel, dans sa toute dernière lettre, vous savez que de Timothée, c'est la toute dernière lettre de Paul, et il va se concentrer dans ce dernier écrit sur son fils spirituel, Timothée. C'est une lettre qui est très rapide à lire, très, très facile, quelques chapitres. Et il va se concentrer pour donner le maximum d'informations, mais plus que ça, de paroles de père. Vous savez, la parole d'une personne qui meurt, il faut la saisir, on ne veut pas l'oublier d'aucune manière. Et Paul va transmettre à Timothée des conseils de sagesse, il va donner des paroles vivantes à Timothée, alors que lui-même est en prison. Il pourrait commencer en disant, mais ce n'est pas juste que je suis en prison, je suis là d'une manière injuste. Il aurait pu dire, mais on m'a maltraité, j'ai mal partout, etc. Il ne parle pas de ses propres besoins, sauf à la fin. D'abord, il parle de Timothée. Il se concentre sur le jeune Timothée. Dans notre vie, mes amis, vient un moment où il faut résolument cesser de tourner autour de soi-même. Il faut se centrer sur ceux qui nous suivent. Centré sur l'essentiel, centré sur ce que nous avons à transmettre, car chaque personne sur la terre a le besoin de laisser une trace derrière elle. On a tous besoin de laisser une trace, de communiquer quelque chose. Et Paul va dire, entre autres, à Timothée que lui-même avait eu l'avantage d'avoir des aïeux qui avaient la foi. Il va dire, entre autres, à Timothée que Timothée, toi, tu as de la chance parce que déjà ta mère et ta grand-mère aimaient le Seigneur. Et tu suis dans la génération. Puis il va dire un peu plus loin dans 2 Timothée chapitre 3, 15, « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. » Il avait fait l'école du dimanche, Timothée. Il avait été éduqué à la maison. Il avait été dans les synagogues de son village. Il avait été instruit dès son enfance. C'est pour ça que nous croyons dans le travail parmi les enfants, qui aide et qui soutient nos familles afin que l'instruction de la foi ne puisse pas faire défaut dans nos familles et dans nos maisons. Amen. La transmission de la foi, l'Église aide, vous aide afin que la transmission de la foi dans vos maisons puisse bien fonctionner. Il va dire encore dans Timothée, toujours dans cette connexion entre les générations, ce que tu as entendu de moi, Timothée, retourne-toi et transmets-le à d'autres. Afin que les autres le reçoivent et se tournent vers les autres pour transmettre à ceux qui sont capables de le faire. Ce que tu as reçu de moi, transmets-le à d'autres, afin qu'eux soient capables de transmettre aux autres. Connaissez ce texte, c'est 2 Timothée 2, 2. Chaque génération a besoin de découvrir l'Évangile. Mais si nous faisons défaut, si nous ne réussissons pas à transmettre à la génération suivante, il y aura un trou, il y aura une barrière, il y aura un vide dans la génération. Et beaucoup se plaignent aujourd'hui de dire, mais la génération qui nous suit, elle n'a plus la culture chrétienne. Elle n'a plus les bases. Jésus, c'est un inconnu. Les villes bibliques, c'est quelque chose d'inconnu. Un laïc était dans une école pour aider au catéchisme. Alors, la première question qu'il pose dans sa classe quand il arrive, est-ce que quelqu'un peut me dire qui a renversé les murailles de Jéricho ? Fut la question. Un grand silence dans la classe. Plus qu'un silence, tout le monde avait les yeux baissés vers les chaussures. Et finalement, il y a une main timide qui se lève sans pouvoir regarder. Il dit, monsieur, monsieur, je ne sais pas qui a renversé les murailles de Jéricho, mais ce n'était pas moi. Alors le laïc qui aidait au catéchisme est sorti donc après son heure de classe. Il va voir le directeur et il dit, écoutez, le niveau de cette classe est vraiment très très bas parce que j'ai demandé qui a renversé les murailles de Jéricho et le petit garçon, il a donné le nom, m'a répondu que ce n'était pas lui. Alors le directeur de l'école dit, écoutez, je connais la famille de ce garçon, je connais le garçon. C'est un garçon très gentil et très honnête. S'il a dit que ce n'était pas lui, c'est que vraiment ce n'était pas lui. Où sont passés les fondamentaux de nos valeurs bibliques aujourd'hui? C'est vrai qu'on peut parfois se poser la question. La parole de Dieu dit que tu inculqueras les enseignements à tes enfants. Inculquer, j'ai regardé le mot encore, c'est enseigner de manière pertinente et incisive. Comme je l'ai dit, d'être soi-même une Bible vivante. Sortez vos images quand vous parlez à vos enfants, bas âge, ou vos petits-enfants. Sortez vos images, faites un petit sketch, faites une image, illustrez. Et les enfants raffoleront et ils vont dire « Papa ou papy, raconte encore une fois ». Et puis vous aurez la troisième histoire à raconter, ils voudront encore l'écouter une quatrième fois, une cinquième fois. Vous allez avoir du succès dans votre famille, je vous le promets. Je vous le promets. La transmission, mes amis, ne se fait pas n'importe comment. Cela doit se faire dans un climat d'amour et de confiance. Je vous invite à lire avec moi dans le psaume 78 qui renferme quelques paroles précieuses que je voudrais vous laisser. La transmission se fait dans un climat véritablement d'amour et de confiance. L'enfant ou la génération après nous est réceptive dans la mesure où ils sentent qu'on ne fait pas la morale, mais on transmet un vécu. Faire la morale ou transmettre un vécu, c'est différent. Écoutez, chapitre 78 des psaumes, verset 3. « Ce que nous avons entendu, ce que nous connaissons, ce que nos pères nous ont dit, nous ne le dissimulerons pas à leurs fils, redisant à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les miracles qu'il a opérés. » La première chose, ce n'est pas de raconter aux enfants les problèmes, mais c'est de raconter avant toute chose la louange, la puissance et les miracles. C'est la première chose. Souvent, nous avons une tendance de raconter d'abord ce qui ne marche pas. Mais le Seigneur nous dit ici, ce que tu as entendu et ce que tu connais, c'est-à-dire ce que tu portes dans ton cœur, c'est ça qu'il faut transmettre. Ne transmets pas des choses que tu as uniquement apprises dans les cours, dans les études bibliques ou dans l'Église, mais ce que tu as entendu et ce que tu connais avec ton cœur, c'est ça qu'il faut transmettre. Tu ne le dissimuleras pas en parlant d'abord, numéro 1, verset 4, les louanges, la puissance et les miracles que Dieu a opérés. Les enfants et les jeunes générations ont besoin de savoir que nous vivons quelque chose avec Dieu. Pas seulement que nous avons des connaissances, que nous savons tout sur la Bible, mais que nous avons vécu quelque chose. Mes amis, ce n'est pas seulement votre témoignage d'il y a 40 ans qu'il faut raconter, même si moi j'aime raconter mon témoignage. Mais il faut raconter aussi ce qui s'est passé la semaine passée. Notre vécu au quotidien avec Dieu, dans les hauts et les bas de la vie, dans les difficultés, comment Dieu nous soutient, comment d'une manière miraculeuse il nous a sortis, comment on a pu vivre et passer au travers de telle ou telle épreuve. Ensuite, il est dit, verset 5, « Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël qu'il a ordonné à nos pères de faire connaître à leurs fils. » Une fois que tu as parlé des miracles, une fois que tu as parlé de la puissance de Dieu, une fois que tu as parlé de ce que Dieu opère dans ta vie, alors enseigne. Enseigne la loi afin qu'ils la connaissent aussi. Donc d'abord, la gloire de Dieu doit rentrer dans nos maisons par la louange et la puissance que Dieu opère dans nos vies. Ensuite, l'enseignement va suivre. Ce n'est pas d'abord l'enseignement, puis après dire tout ce qui ne va pas ou tout ce qui est difficile. C'est d'abord la puissance de Dieu, les miracles et la louange, et ensuite la loi. Et verset 6, « Pour que la connaissent ceux de la future génération, des fils naîtront, ils se dresseront et le diront à leurs fils, ils mettront leur assurance en Dieu et n'oublieront pas les actes de Dieu, ils observeront ses commandements, etc. Ils ne seront pas comme leur père, une génération indocile, rebelle et qui n'était pas stable. » Ça veut dire que lorsque vous parlez de la puissance de Dieu et que les enfants sont participants, que les jeunes sont participants dans la puissance de Dieu qui se vit au quotidien dans notre propre vie, lorsqu'ils observent nos vies, alors ils vont entendre notre message et ils vont, comme le dit le verset 6, le retenir, ils vont avoir de l'assurance eux-mêmes, ils vont être confiants eux-mêmes. Ils vont être assurés eux-mêmes et ils ne vont pas être comme la génération avant, rebelles, instables et indociles. Est-ce que nous saisissons ce qui est écrit dans le psaume 78 ce matin? Saisissez ce message. D'abord, il y a un ordre, une priorité. Je veux à partir de maintenant parler des louanges, des miracles et des prodiges du Seigneur dans ma vie. Eh bien Seigneur, s'il n'y en a pas eu depuis 40 ans, eh bien Je me place devant toi et je veux vivre quelque chose, Seigneur. J'ai besoin de vivre quelque chose personnellement. Il faut que le chrétien vive quelque chose avec Dieu d'une manière régulière. C'est important. C'est important. Les familles étaient touchées ensemble par l'évangile au départ. Dans Actes 16, nous voyons toute la famille de Lydie qui se convertit. Dans le même chapitre, nous voyons toute la famille du geôlier qui se convertit à Philippe, où il est dit, « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Toi et ta famille. Je vois encore dans une évangélisation, j'étais jeune converti, je vois encore, nous étions dans une salle publique, une salle qui était remplie, et je vois au milieu de la salle, 4 personnes qui se lèvent d'un coup à l'appel, en même temps. Ils demandent aux personnes de se lever, et ils sont tous passés à côté, ils ont tous marché devant, dans l'allée centrale, ils se sont tous mis à genoux devant 4 personnes, tout seuls. Les autres ont suivi après. J'oublierai jamais cette image de toute cette famille, père, mère et leurs 2 enfants, se sont levés en même temps, ils sont venus devant, ils se sont agenouillés, ils se sont convertis ensemble. J'ai gardé contact avec eux pendant très très longtemps. Ça a été une conversion remarquable et remarquée parce que toute une famille ensemble s'est convertie. Alléluia. Que vraiment il y ait encore de ces conversions de toute la famille. Je voudrais maintenant vous conduire dans un texte qui va nous montrer quelque chose de spirituellement extrêmement important que nous pouvons tous faire. Que vous ayez des enfants ou que vous n'en ayez pas, vous pouvez encore agir maintenant. Je vous invite à me suivre dans la Genèse 48, ce sera mon dernier point. Genèse 48, nous allons découvrir quelque chose de particulier. On va lire les versets 1 à 5 et ensuite les versets 8 et 9. Genèse 48. Après ces événements, l'on vint dire à Joseph, « Voici que ton père est malade. » Il prit alors avec lui ses 2 fils, Manassé et Éphraïm. On l'annonça à Jacob et on lui dit, « Voilà ton fils Joseph qui vient vers toi. » Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz dans le pays de Canaan et il m'a béni. Il m'a dit, « Me voici. » Je te rends fécond, je te multiplierai et je ferai de toi une foule de peuples. Je donnerai ce pays à ta descendance après toi en possession perpétuelle. Maintenant, les 2 fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Siméon. Versets 8 et 9. Israël, qui est donc Jacob, regardait les fils de Joseph et dit, « Qui sont ceux-ci ? » Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. » Israël dit, « Je t'en prie, fais-les avancer vers moi pour que je les bénisse. » On ne va pas étudier tout le texte en détail, car comme vous le savez, Jacob a béni ses 2 garçons d'une manière spéciale. Vous lirez ça dans la suite. Je ne voudrais pas axer la manière dont il a béni l'aîné après le plus jeune. En fait, il a mis la main droite sur le plus jeune et la main gauche sur le plus âgé. Ce n'est pas de ça que j'aimerais terminer mon message ce matin, mais juste vous faire remarquer quelque chose. Le passage parallèle de ce moment particulièrement important où Jacob est en fin de vie, il a 147 ans, et dans le chapitre 11 de Hébreux, il est question de Jacob. Jacob a vécu une énorme quantité d'expériences avec Dieu. Dans la Genèse, vous trouvez de nombreux chapitres qui parlent de ce qu'il a vécu, mais là, le chapitre de la foi retient un seul verset sur la vie de Jacob. Écoutez ce que dit ce verset. Un seul. Hébreux 11, verset 21. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est le seul verset que l'Épître aux Hébreux, chapitre sur la foi, va dire au sujet du patriarche Jacob. Joseph est marié en Égypte. Sa femme est une Égyptienne. Elle s'appelle Asnath, fille du prêtre Don. Et ensuite, il est dit que Jacob veut absolument voir ses petits-enfants. Ses petits-enfants qui sont ses 2 petits-fils. Et Jacob, il nous est dit dans le texte, va rassembler toutes ses forces. Jacob va rassembler ses forces pour s'asseoir. Cela montre qu'il pressent que juste avant de mourir, il a encore un acte important à faire. Bien sûr, il va, à un moment donné, bénir ses 12 fils. Mais avant de bénir ses 12 fils, écoutez bien, il va bénir dans la foi. C'est ce que Hébreu nous dit. Dans la foi, il va bénir ses 2 petits-enfants. D'abord, priorité à ses 2 petits-enfants. Il veut bénir dans la foi et il veut mourir dans la foi. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une bonne formule pour partir de cette terre? Je veux encore bénir. Je veux encore laisser quelque chose dans la foi et puis je partirai dans la foi. Car le Seigneur nous dit, je suis celui qui a donné la foi et qui l'amène à son achèvement. Ce que Dieu donne, il l'achève. C'est comme un avion qui décolle et Jacob est en bout de course. Sa vitesse est au maximum et il va décoller dans un instant. Sa foi fonctionne parfaitement. Alléluia. Quand vous partirez de cette terre, vous êtes comme un avion sur la piste de décollage. Votre vitesse est au maximum avant de partir. Votre foi est au perfectionnement. Alléluia, ça me passionne de lire cela. Il nous a dit une chose dans Hébreu, qu'il était appuyé sur son bâton. Vous allez me dire, mais ce n'est pas anormal. Pourquoi la Bible retient un détail pareil? Pour un homme de 147 ans, c'est normal qu'il ait son bâton. Mais la Bible ne dit rien pour ne rien dire. Cela veut dire, si on regarde dans le contexte biblique, que Jacob se considère toujours comme pèlerin et voyageur sur la terre. Il est en Égypte, n'oubliez pas. Est-ce qu'il est chez lui? Non. Son pays, c'est Canaan, mais son vrai pays, c'est le ciel. Il est appuyé sur son bâton parce qu'il dit « Je suis pèlerin et je n'oublierai jamais que je suis de passage sur cette terre, que je ne suis pas chez moi ici, que mon chez moi, il est réservé ailleurs. » Il est appuyé sur son bâton pour nous dire cela. « Je ne suis pas citoyen d'Égypte, je suis citoyen du ciel. » Écoutez ce que la parole de Dieu dit, je le relis encore une fois. « Appelle tes 2 fils, Manassé et Éphraïm, ils seront à moi, comme Ruben, Siméon et les autres. » Il va les adopter, ses petits-fils, il va les adopter comme ses fils. Bon, c'est ses fils quand même, c'est la descendance de son fils, mais il va les adopter d'une manière spirituelle, dans la foi. Il veut leur donner une bénédiction spéciale parce qu'ils en ont besoin. Pourquoi? Parce qu'ils sont en Égypte, d'une maman égyptienne et d'un père hébreu. Vous avez dans vos maisons des gens qui sont du royaume de Dieu et du royaume du monde. Vous connaissez des gens dans les familles qui sont, où les royaumes sont partagés, sont mélangés. Tantôt c'est le royaume de Dieu qui a priorité, tantôt c'est le monde qui a priorité. Comment se situer dans des familles où il y a des différentes religions, différentes tendances, différentes pressions, différents enjeux spirituels? Jacob est lucide à 147 ans, il discerne. La parole de Dieu dit encore dans le chapitre 48 qu'il était aveugle. Et il va dire, mais c'est qui ces enfants-là? Joseph répond, ce sont tes petits-enfants. Il ne voyait plus rien, mais son esprit était clairvoyant. Son œil intérieur voyait clair. Au point que lorsque Joseph va lui apporter les garçons, bien sagement, l'aîné à droite de Jacob, le plus jeune à gauche, eh bien Jacob, qui ne voit rien, va inverser ses mains, va poser sa main droite sur l'autre. Et Joseph dit, mais papa, tu te trompes. Non, je ne me trompe pas, je sais ce que je fais. Il voyait clair. Spirituellement, il était alerte. Il était là, il n'était pas endormi, il n'était pas somnolent. Il était alerte par le Saint-Esprit dans la foi de faire quelque chose de précieux, de juste. Je vais adopter tes 2 enfants spirituellement, je vais les bénir d'abord. Parce qu'eux en ont le plus besoin. Justement parce que leur maman est égyptienne. Deuxièmement, parce qu'ils sont élevés à la cour de Pharaon, ne l'oublions pas. Et vous pensez, mettez-vous dans leur situation. Pensez-vous que lorsque, à un moment donné, Israël va lever les voiles pour sortir de l'Égypte, vous pensez que ces enfants-là et leurs descendants qui habitent à la cour de Pharaon vont dire « Ah ben nous, on va quitter tout ça et on va partir avec eux comme nomades. On va laisser nos palais, tous nos privilèges, tous nos avantages et notre argent et nos biens ici pour suivre Israël. » C'est vrai qu'on a une partie d'Israël en nous, mais on a aussi l'Égypte en nous et on habite en Égypte, on est privilégié par l'Égypte. Est-ce que vous pensez qu'ils auraient eu le courage de sortir avec Israël? pour quitter et aller vers leur véritable destinée. Jacob le pressentait. Ils sont dans le monde, ils sont rattachés à ce monde. Ils ont besoin d'une bénédiction. Ils ont besoin de prière parce qu'ils sont rattachés au royaume d'Égypte plus que les autres. Les autres, ils sont juifs, ils sont hébraïques, ils sont hébreux. Et ils vont quitter parce qu'ils sont de la descendance directe de Jacob. Voilà pourquoi Jacob pressent cette grande responsabilité de bénir d'abord ses petits-enfants en les adoptant comme les siens, pour les bénir dans la foi, afin qu'eux aussi fassent partie du voyage, afin qu'eux aussi rentrent dans le pays promis, afin qu'eux aussi héritent du salut, afin qu'eux aussi soient remplis du Saint-Esprit. Mes amis, je termine là-dessus. Qui ce matin voudrait adopter quelqu'un sur votre cœur, quel que soit votre âge, pas besoin d'attendre 147 ans. Dans 147 ans, il n'y aura plus personne ici. Il y aura d'autres, dans d'autres circonstances. Nous n'allons pas attendre tout à fait la fin, parce que personne ne sait quelle fin on aura, mais nous allons maintenant engager spirituellement dans le discernement que Dieu nous donne et la vision que Dieu nous donne, nous allons adopter quelqu'un qui est à mi-chemin entre le royaume du monde et le royaume de Dieu, qui est déchiré en lui-même, qui ne sait pas ce qu'il doit choisir, qui n'a pas les forces pour le faire. Toi, tu vas le faire dans la foi. Tu vas bénir, tu vas prier, tu vas intercéder, tu vas t'engager, tu vas faire quelque chose pour que ces enfants-là aussi partent avec toi dans le royaume de Dieu. Amen. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants et il ramènera le cœur des enfants vers les pères, nous dit Malachie. Oui, il ne faut pas que ce matin, ces enfants manquent à l'appel. Eux aussi doivent sortir de l'Égypte pour entrer dans le pays de la promesse. Le Seigneur est capable, mes amis, d'aller chercher n'importe qui au bout du monde pour le ramener dans sa présence. Écoutez l'histoire suivante, je l'ai déjà racontée dans un autre culte, mais je vais juste courtement vous la relire. C'était quelqu'un qui est élevé dans une famille qui avait des valeurs, beaucoup de valeurs. Ce n'étaient pas des chrétiens, mais ils avaient des valeurs. Ça veut dire, travaille bien à l'école, joue de ton instrument de musique, obéis à tes parents, etc. Un jour, la maman va trouver par hasard un traité chrétien où, à partir duquel elle va se convertir. Elle accepte Jésus dans son cœur et à partir de là, elle va aimer son fils d'une manière différente. Peu après, le père également se convertit. Le garçon, parce que c'est son histoire, le garçon va vivre une vie double. Il va être en Égypte et puis bien sage à la maison. Il va vivre à 200% une double vie. Le jour, il est sage, il étudie, il fait la musique. La nuit, il sort, il consomme et revend de la drogue. Et un jour, il est expulsé de l'école à cause de ça. Alors, comme sa double vie a émergé, que ça a été connu, il quitte la ville, il fait autre chose, il quitte toute la région pour finalement foncer dans la partie obscure de sa vie. Il va devenir dans le commerce illicite de la drogue et l'immoralité. Durant ce temps, dit-il, ses parents ne savaient pas ce qu'il faisait parce qu'il avait coupé les ponts avec eux. Il savait juste une chose, un peu comme Jacob. Notre fils est en danger, il va mal, il a besoin de prière. La maman va prier comme jamais. Elle va prier et tous les deux jours, elle va écrire un mot, une carte, avec un verset, parfois des passages tout entiers. Et elle va toujours signer de la même manière, « Je t'aimerai toujours ». Le garçon, de son côté, va prendre toutes ses cartes, il ne les lira même pas. Il les jette à la poubelle. Un jour, ses parents prennent l'avion pour le visiter. Au deuxième jour, le garçon les met pur et simplement à la porte. Mais juste avant de quitter l'appartement, le père lui tend sa propre Bible. À peine le dos tourné, cette Bible atterrit dans la poubelle. Il dira « Je ne veux rien avoir à faire avec cette Bible et avec ce Dieu ». Les parents réalisent ensuite que leur fils est totalement perdu, inatteignable. C'est un cas désespéré. Écoutez bien la suite. Toutefois, il décide de ne pas se focaliser sur le cas désespéré, mais se focaliser sur les possibilités du Dieu surnaturel qui peut faire quelque chose et changer l'impossible en possible. « Seigneur, dira la maman, Fais tout ce qui est à faire pour ramener mon fils prodigue et que cela coûte n'importe quoi. » Elle va jeûner, elle va prier pendant 7 ans de prière. Elle passera du temps dans la prière chaque jour. Elle savait qu'il ne fallait rien de moins qu'un puissant miracle pour ramener ce fils de là où il était. Et le miracle arriva. Un jour, 12 agents de sécurité, accompagnés de chiens, l'arrêtent en pleine nuit pour trafic de drogue. Il est condamné à 10 ans de prison. Là, le fils se ressaisit et il dit « Il faut que je téléphone à ma mère. » Et la mère décroche de l'autre côté. Ses premiers mots étaient « Mon fils, est-ce que tu vas bien ?» Le garçon réalise « Elle ne me fait pas la morale, elle ne me condamne pas, elle me fait uniquement grâce. » En fait, ma mère attendait ce coup de fil car je n'avais plus appelé à la maison, dira-t-il, depuis des années. Dieu commençait à répondre à sa prière. Dès ce moment, elle va s'accrocher aux bénédictions et commencera à compter les bienfaits de Dieu. Elle dit « Mon fils est en lieu sûr », c'est-à-dire en prison. Elle va compter les bénédictions, elle va les inscrire sur une longue feuille, une feuille de papier qui aura la taille de son enfant. Dans l'enceinte de la prison, les jours passent, les mois passent. Un jour, le fils passe à côté d'une poubelle. Il passe à côté de la poubelle et il réalise d'un coup que sa vie est une poubelle. Un peu penché sur la poubelle, il aperçoit tout à coup, posé sur la poubelle, un petit Nouveau Testament Gédéon. Il l'a pris, serré contre lui, et toute la nuit, il a lu l'évangile de Marc. Ce que j'avais entre mes mains, dira-t-il, n'était pas que de l'encre sur du papier, c'était le souffle même de Dieu. Je m'ouvris à cette parole qui commençait à exposer ma vie, à mettre à nu mes péchés, ma rébellion, et à mettre au grand jour le fond de mon cœur. Un jour, alors que j'avais reçu une très mauvaise nouvelle concernant ma santé, j'étais couché sur le dos et j'aperçus quelque chose écrit au plafond de ma cellule. « Si jamais tu t'ennuies, lis Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés à ton sujet, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le culte de dimanche passé. Voilà que Dieu utilise une parole donnée il y a des milliers d'années à un peuple rebelle pour me dire à moi, rebelle également, qu'il y a encore des plans et un avenir. Je m'accrochais à la parole en quelques mois, je fus complètement délivré de la drogue. Puis Dieu me montra que l'important était la sainteté, car Dieu est saint. Il me dit « Vis dans la pureté et la sainteté ». Et là, en prison, Dieu m'appela clairement au ministère. Je m'inscris dans la seule école biblique que je connaissais. Et pour référence et recommandation, il n'y avait que 3 personnes, un gardien de prison, l'aumônier de la prison et un autre détenu. L'école biblique m'accepta. Quel miracle ! À présent, je sers le Seigneur. Amen. Alléluia. Quelle belle histoire. Je voudrais que ce matin, comme Jacob, vous puissiez avoir ce discernement et cette clairvoyance et cette vivacité spirituelle pour prendre sous votre aile encore un Manassé, un Éphraïm, des enfants qui ne se situent pas, qui sont quelque part. Prenez-les et bénissez-les. Priez pour eux. Amen.